Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Suspense total donc aux États-Unis, une tension qui se durcit également entre les deux camps. Le duel est très serré, pas de vague démocrate, un Trump qui résiste face à cette incertitude. Les deux candidats ont décidé de prendre la parole il y a moins d'une heure. Joe Biden pour dire qu'il était confiant, Trump pour dire que les démocrates tentaient, je cite, de voler l'élection. Dans ce journal presque entièrement consacré au scrutin américain, direction d'abord le QG de Biden, puis nous irons au Texas, bastion républicain que les démocrates espéraient prendre mais qui leur a échappé. Direct depuis l'un des états clés du nord industriel, le Wisconsin, très incertain. Et enfin l'analyse de notre envoyé spécial Franck Madvon à New York. Dans ce journal également, un quatrième projet de loi de finances présenté en Conseil des ministres ce matin. L'État remet sur la table 20 milliards d'euros.
Et dans un quart d'heure avec Léa Salamé, nous recevrons Roger Cohen, l'éditorialiste du New York Times, et Gérard Araud, l'ancien ambassadeur de France aux États-Unis. Une voix familière désormais pour vous, amis auditeurs d'Inter.
France Inter.
Et on part donc tout de suite, Sébastien, sur les terres de Joe Biden, qui a pris la parole il y a un peu moins d'une heure.
Oui, le candidat démocrate est le premier des deux à avoir fait une déclaration. C'était il y a trois quarts d'heure exactement. Joe Biden confiant mais appelant à la patience. Une façon de couper l'herbe sous le pied de Donald Trump, qui n'a pas tardé à réagir sur Twitter, expliquant, je cite, que les démocrates allaient voler l'élection. Direction donc Wilmington avec notre envoyé spécial dans le Delaware, Sébastien Paour. Bonjour. Quelle ambiance chez vous après ce discours de Joe Biden, Sébastien ?
Mitigé cette ambiance, discours suivi par les partisans de Joe Biden invités dans leur voiture et par quelques-uns qui ont tenté de s'approcher comme nous derrière les grilles de ce parking du centre de congrès de Wilmington où Joe Biden a dû parler quelques instants. Rose était parmi ces gens. Elle aurait préféré un raz-de-marée bleu, démocrate donc. Elle se contente d'une petite vague. Écoutez.
I like the speech.
J'ai aimé le discours.
I was trying to find all the hope in there I could get.
Tout l'espoir que je pouvais. J'étais assise dans la voiture à regarder les voix des grands électeurs tomber. Biden ne propose pas toutes les politiques qu'on aime. Mais c'est un homme bien, dit Rose. Voilà, la confiance est là, mais elle est très fragile après ce discours de Joe Biden qui a dit, lui, qu'il était à la fois confiant, mais qu'en même temps, il fallait attendre les résultats qui tomberont dans la matinée. Il a dit que ce n'était pas à lui de les annoncer, pas plus qu'à son adversaire Donald Trump. Il est retourné vraisemblablement dans sa maison familiale, non loin d'ici, à Wilmington, dans le Delaware, où il habite depuis 70 ans. Pas beaucoup de commentaires. Toutes les dernières voitures sont en train de quitter ce parking. Encore éclairé avec cet immense drapeau américain au-dessus de nous.
Sébastien Paour, en direct du QG démocrate à Wilmington dans le Delaware, merci. Donc réaction, je le disais, de Trump immédiate. Ils essayent de voler les élections. Nous ne les laisserons jamais le faire. Le président américain annonce aussi qu'il va faire une déclaration tout à l'heure depuis la Maison-Blanche.
7h33, on file maintenant au Texas. Sébastien, état décisif dans cette course à la Maison-Blanche.
38 grands électeurs à la clé, état gagné par Donald Trump en 2016 que les démocrates n'ont jamais remporté depuis 1976, depuis Jimmy Carter. Bonjour Valentin Dunat. Joe Biden, bonjour. Joe Biden avait l'espoir de l'emporter dans le Texas, mais à l'image de cette soirée électorale, eh bien Donald Trump résiste et a priori il l'aurait remporté, Valentin.
Oui, les démocrates ont espéré une partie de la soirée, mais Donald Trump s'est finalement imposé au Texas, on peut le dire, à l'indicatif désormais, assez largement finalement, avec 6 points d'avance. Alors évidemment, Donald Trump s'impose dans les campagnes texanes, mais à vrai dire, et c'est ça qui est le plus surprenant, dans les banlieues des grandes villes, chez les minorités hispaniques, afro-américaines, Biden n'a pas réussi à convaincre. On le voit par exemple dans des comtés de la vallée du Rio Grande où Biden ne fait pas de grosses différences. Autre élément surprenant, la colistière Kamala Harris s'était rendue vendredi à Fort Worth, c'est une grande ville près de Dallas. Et finalement, dans cette grande ville, c'est Trump qui s'impose. J'ai rencontré tout à l'heure un jeune Texan afro-américain de 28 ans qui m'expliquait que Donald Trump continuait de séduire parce qu'il représente, selon lui, les valeurs de l'Amérique. Vous finir par vous dire également que tout le monde est parti ici. Il est 23h34. J'ai assisté à une watch party républicaine au milieu de jeux d'arcade, de karting et de laser game. Les Républicains sont partis donc, estimant que la partie était remportée et que Trump allait rester président.
Voilà, Valentin Dunat en direct du Texas. Parmi les États du Sud que les démocrates entendaient ravir aux républicains, il y avait aussi l'Arizona, 10 grands électeurs. Fox News avait donné les démocrates vainqueurs dans un premier temps, mais semble revenir maintenant sur ses prévisions. Si les États du Sud, bastion républicain depuis des décennies, vont être donc difficiles à prendre, c'est vers le nord du pays industriel que l'équipe démocrate va miser tous ses espoirs. Exemple, dans le Wisconsin, où on rejoint tout de suite Rosalie Lafarge. Bonjour Rosalie.
Le Wisconsin, bonjour. 10 grands électeurs. En 2016, là aussi, Trump l'avait emporté de seulement 22 000 voix devant Hillary Clinton. Est-ce que, Rosalie, cette étape peut revenir, cette fois dans le giron démocrate?
Alors, le dépouillement n'est pas terminé ici dans le Wisconsin. On en est à 77% de bulletins dépouillés, ce qui nous oblige évidemment à encore beaucoup de prudence. Mais à l'heure où on se parle, Donald Trump a de l'avance. Il mène la course dans cet état capital, effectivement, pour ouvrir les portes de la Maison Blanche. Les démocrates avec qui j'ai commencé la soirée étaient déjà partis au moment du discours de Joe Biden. Ces mots auraient peut-être redonné un peu d'élan à ce rassemblement. Mais non, ils sont repartis un peu inquiets. Ils tentent de rester optimistes, mais ils doutent, les démocrates de Milwaukee. Ils doutent de pouvoir récupérer ces 10 grands électeurs du Wisconsin dans leur camp. Et à l'heure où on se parle, 10 grands électeurs, c'est précieux, très précieux, ça peut faire la différence. Et forcément, dans les deux camps, on les veut. Alors, les démocrates n'ont pas franchement digéré leur échec surprise de 2016 dans cet État. Il leur était effectivement a priori acquis, ils l'ont perdu, ils avaient l'intention d'en faire une terre de reconquête. Pour l'instant, ce n'est pas fait, même si on se répète, mais c'est important, rien n'est encore bouclé ici. Il reste des bulletins à dépouiller et il faut donc encore être un peu patient.
Voilà, Rosalie Lafarge dans le Wisconsin. C'est donc le scénario le plus stressant qui se profile aux États-Unis, aucune certitude, pas de raz-de-marée. Démocrate, un Trump qui résiste, un dépouillement qui pourrait durer et de quand on le disait qu'il faut monter la pression. Bonjour Franck Madvon, en direct.
Bonjour Sébastien.
De New York. Le scénario est très incertain, Franck. Hein.
Ben oui, c'est le moins qu'on puisse dire. 270 grands électeurs, hein, vous connaissez l'équation pour devenir président des États-Unis. Joe Biden est à 224, Donald Trump à 213. On peut ajouter l'Arizona pour Joe Biden, c'est quasi gagné là-bas. Certains médias le donnent d'ailleurs. Ça ferait 235 grands électeurs pour Joe Biden. Il en manque encore 35. Où peut-il aller les chercher? Eh bien, il reste 4 États, en réalité, à conquérir. La Géorgie, 16 grands électeurs. Et puis, les 3 États ouvriers du Nord, où s'était jouée l'élection il y a 4 ans, Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie. C'est en remportant ces 3 États in extremis de justesse que Donald Trump avait accédé à la Maison-Blanche. Très difficile de donner des tendances dans ces 4 États. En Géorgie, Donald Trump est en avance, mais le décompte des voix à Atlanta, dans les villes démocrates, n'a pas encore été effectué. Et puis, dans les États du Nord, il y aura beaucoup de votes par correspondance. Leur dépouillement va prendre beaucoup de temps. Ce sont des États qui ne sont pas vraiment armés pour comptabiliser ces bulletins. Voilà la raison pour laquelle on n'aura sans doute pas le nom du président des États-Unis, du nouveau président des États-Unis aujourd'hui.
Voilà, Franck Madvon en direct de New York. On le voit, rien n'est joué, rien n'est tranché. Une quasi-certitude. En revanche, les démocrates devraient rester majoritaires à la Chambre américaine des représentants, dont la totalité des 435 sièges était mise en jeu aujourd'hui. C'est une projection des médias américains NBC, ABC. Et Fox News, un dernier tour rapide de la dizaine d'États clés dans lesquels on a déjà quelques résultats. Donc victoire a priori dans le Texas de Trump avec ses 38 électeurs, grands électeurs. Donald Trump sur le point de le remporter en Floride. Donald Trump qui va s'imposer aussi sans doute dans l'Ohio, État clé avec 18 grands électeurs. Victoire quasi certaine dans l'Iowa. En revanche, l'Arizona c'est plus incertain. Duel très serré en Caroline du Nord, en Géorgie. À regarder de près les États industriels du Nord, on en parlait à l'instant, Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie et Minnesota. Voilà ce qu'on pouvait dire à 7h sur le scrutin, toute la matinée, toute la journée. Émission spéciale sur Inter avec vos invités, Nicolas.
Et il est 1h38 du matin sur la côte Est des États-Unis. 7h38 ici, Sébastien, dans l'actualité française. Nouvelle polémique autour du reconfinement.
Ouais, les députés devaient voter la prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 16 février, comme le voulait le gouvernement. Mais face à des oppositions très remontées, des députés en marche, trop peu nombreux, eh bien l'examen du projet de loi sur la santé s'est enlisé. Vote litigieux, suspension de séance. Résultat, les oppositions sont parvenues à faire voter une prolongation de l'urgence jusqu'au 14 décembre seulement. Ce matin, le Conseil des ministres a donc aussi présenté le 4e projet de loi de finances rectificative de 2020 avec 20 milliards d'euros supplémentaires ajoutés aux dépenses de l'État. Les précisions de Laurent Kramer.
Reconfinement oblige, les dépenses de l'État se creusent. Mais l'État encaisse également quelques bonnes nouvelles qui lui permettent de ne pas alourdir encore davantage la facture de ce budget rectificatif. rectificatif. Un mois de confinement coûte à lui seul 15 milliards d'euros et prudemment, Bercy provisionne de quoi tenir, si nécessaire, sur ce même rythme de dépenses jusqu'à la fin de l'année. Grâce au rebond de la croissance cet été, plus 18% au troisième trimestre, l'État encaisse 4 milliards d'euros d'impôts et de TVA de plus que prévu. Ces recettes fiscales inespérées s'ajoutent à quelques milliards d'euros d'aides aux entreprises, provisionnées mais non dépensées, de quoi tenir, si nécessaire, un deuxième mois de confinement jusqu'à la fin de l'année, sans toucher une énième fois au budget.
Voilà, Laurent Kramer. Les grandes surfaces, elles ont encore toute la journée d'aujourd'hui pour se mettre en règle. Le gouvernement, on le sait, leur a demandé, pour respecter l'équité avec les commerces indépendants fermés, de ne plus vendre de produits dits non essentiels. Ce soir, donc, interdit de vendre de l'habillement, de l'ameublement, des jouets, des livres, encore des fleurs. Ces chiffres sur le Covid aussi, les chiffres d'hier qui ont encore progressé. 430 morts en 24 heures, un taux de test positif à 20%. Un nouveau conseil de défense sera consacré à la crise sanitaire. Ce matin à l'Élysée, Nicolas.
Merci Sébastien Legénie.